Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 29. Désorceler la finance.
Full Continental. Caroline Gillet sur France Inter.
Ça ressemble un peu à un magasin de cravates. Il y en a plein, suspendus au plafond. Je vérifie auprès du gardien de la fac d'architecture de Bruxelles qui me dit que si, c'est bien là, l'exposition « Désorceler la finance ». En même temps, je sais pas trop ce que j'imaginais, mais en m'approchant des vitrines, je suis totalement réjouie de découvrir exposés des objets qui ont servi au rituel de désenvoûtement de la finance. Il y a des vieilles clés accrochées à un grand porte-clés, un anneau fait de vieux barbelés. C'est le hochet cérémoniel du désenvoûtement du marché de l'immobilier, dit l'étiquette. À côté, un gris-gris touffu contre la versatilité des taux sur les marchés des céréales. Il y a aussi un flacon avec dedans de la sueur d'angoisse de la Banque Centrale Européenne, cuvée 2008. Des porte-monnaies ensorcelées, il y a aussi des orties et mauvaises herbes. L'étiquette dit qu'il s'agit d'un herbier du quartier d'affaires du Luxembourg, réalisé en juin 2017. Tous ces objets sont rassemblés par le laboratoire sauvage de recherche expérimentale Désorceler la finance. Ici, on triture, on malaxe les symboles de la finance pour générer une conversation sur ce sujet complexe, peut-être encore plus méconnu et lointain que l'Europe, mais qui pourtant régit nos vies, la finance. Moi qui avais perdu ma carte de crédit depuis une semaine ce jour-là, je le ressentais avec pas mal d'acuité. Et justement, j'ai rencontré deux femmes qui veulent nous rappeler le lien intime qu'on entretient avec la finance. Charlotte, que vous entendrez tout à l'heure, et Aline ont réfléchi à des façons d'agir contre le sentiment d'impuissance que nous éprouvons face au pouvoir financier. Elles veulent trouver des façons d'impliquer un public sur un sujet encore trop largement laissé aux experts. Elles veulent raconter, alerter et aussi s'amuser.
La matière qui est utilisée pour faire ce sceptre, c'est une fourche de qui est utilisée pour travailler la terre. Il y a de la paille. Il y en a certains qui sont sonores, comme celui-ci.
Mais donc, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance pour cet épisode, vous pouvez allumer une bougie ou idéalement nous écouter un soir de pleine lune. Et on commence donc avec Aline Farès, qui est une sorte de sorcière en chef, qui revient de loin, puisqu'avant elle était banquière. Elle veut d'abord m'expliquer pour les cravates. La cravate, dit-elle, ça reste un symbole de l'homme blanc, en situation de pouvoir, notamment sur les marchés financiers. Alors il y en a partout ici, qui pendent du plafond, et aussi qui sont accrochés à des totems, ou sur cette structure en brique, au milieu de la pièce. Au-dessus de la structure, il y a des mains gantées,
qui sont remplies de cette mousse qu'on utilise beaucoup dans la construction,
qui tiennent des billets de Monopoly, dans lesquels ont été plantées des aiguilles voodoo.
Des gants d'ouvriers qui symbolisent le travail humain qui est produit par ces ouvriers pour la construction, pour le bâtiment. Un travail qui est très précaire, en grande majorité. Et ces billets sont là pour marquer la spéculation délirante qui est faite sur la pierre, sur la brique, sur les immeubles, et qui dépossède à la fois ces ouvriers de leur une rémunération correcte de leur travail, mais qui dépossède aussi de plus en plus les habitants et habitantes des villes et des campagnes aussi d'ailleurs de conditions de vie décentes. Ici à Bruxelles, où on a un taux de pauvreté qui est quand même très élevé, on a vraiment un problème de logement dans les grandes villes. À Bruxelles, il est grave. Et pourtant, la spéculation immobilière va bien. Et il y a des grosses boîtes très financiarisées qui font des profits significatifs là-dessus. Donc bref, cette installation est la quintessence de ça, de cette histoire.
Dépasser cet état d'empêchement, de contention, d'étouffement requiert de briser quelque chose.
C'était un soir d'octobre 2017. Dans le petit parc devant le Palais Royal, dans une grande fontaine vide, ils se sont tous désenvoûtés des marchés des céréales. Il y avait des totems, des gris-gris, de la musique, des défilés, des incantations, de la solennité pour les artistes et activistes du laboratoire. Il y avait du public autour qui était invité à scander, par exemple, les noms des plus grandes banques. Vous reconnaissez ? Voilà des sons de cette soirée, on mettra le lien de la vidéo sur la page de l'émission Full Continental. L'idée, c'était de conscientiser, de réveiller, d'alerter et de faire réfléchir à ce que la finance représente dans nos vies. Et moi-même, qui ne pensais jamais m'intéresser à ces questions, me voilà qui creuse le temps d'une émission. Cette nuit-là, il y a eu 6 désenvoûtements. Celui du marché des céréales, du logement et plus tard du marché de la bière. Et pour désenvoûter, il y a bien sûr un rituel à suivre.
Il faut d'abord des représentations de la finance. Alors ces représentations de la finance, c'est les fétiches, les grosses têtes là qu'on voit.
Avec des grands yeux faits avec des culs de canettes de bière, le tout sous un bas, avec sur la tête une perruque et de part et d'autre, à la place des oreilles, 2 vieux téléphones. Je ne sais pas si vous visualisez un peu.
Il est inspiré d'une photo de tête d'un trader, en fait, qui est là avec ses 2 téléphones. Il faut aussi des représentations de ce à quoi on tient, de choses qui nous sont essentielles. Pour le marché des céréales, ça va être des sacs de farine, des sacs de blé. On avait récupéré plein de pain sec. Et pour symboliser le lien extrêmement tendu entre le monde de la finance et ces choses, c'est là qu'on a utilisé les câbles avec des cravates attachées à ce lien. Et tout l'objet du rituel de désenvoûtement de la finance, c'est de faire ressentir la tension qu'exerce la finance sur ces choses essentielles à nos vies et à notre bien-être. Et donc, à la fin de ce moment qui est accompagné par de la musique, on casse le lien. Les fétiches tombent. Et à partir de là, on peut respirer. À partir de là, on peut commencer à penser autre chose. À partir de là, on peut sortir et puis se dire que on est capable de se libérer de tout ça et on est capable d'imaginer un autre monde et de faire vivre un autre monde, quoi. Voilà, c'est ça un rituel de désenvoûtement.
Dans leur manifeste, les membres du laboratoire Désorceler la finance annoncent « La crise traversée par les pays occidentaux est la crise d'un système tout entier. Pour en sortir, il nous semble urgent de se réapproprier, nous citoyens, artistes, activistes, les enjeux liés au fonctionnement de ce système, quitte à se saisir de ses aspects, à première vue, incompréhensibles et inaccessibles. Mais serions-nous ensorcelés pour qu'il nous paraisse tellement difficile, voire impossible, de nous attaquer à cette machine mortifère ?
C'est plus facile pour la plupart des gens de faire avec nous un rituel de désenvoûtement de la finance ou un tirage de cartes que d'aller à une conférence d'une heure sur l'état du système financier et des propositions législatives pour le remettre à l'endroit. Et puis aussi, ce sont des façons de découvrir que chacun et chacune de nous a un savoir sur ce sujet-là. Parce que en creux, finalement, on sait comment ça marche puisqu'on sait ce que ça nous fait. On voit ce que ça fait à nos vies, individuellement, collectivement, à nos rues, à nos villes, aux services publics. Enfin, on le sait. Et donc, en se mettant tous ensemble à parler de tout ça, on se rend compte qu'on a finalement une compréhension relativement complète du fonctionnement de ce système, en tout cas comment il se nourrit, quoi.
Au milieu de la pièce, sur une construction en briques, il y a aussi une collection de livres exposés. Tous ont été lus par au moins un des membres du laboratoire, me dit-on. Il y a un « Que sais-je de l'histoire de Monaco », un livre « Secret des sorcières », un autre qui s'appelle « La sorcellerie capitaliste ». Il y a un guide du routard de l'investissement en bourse, un livre sur les prêts toxiques. Et je me demande qui du collectif est tombé sur ce livre de comptabilité ou ce dictionnaire de l'économie. Pas de chance. Enfin, il y a un livre qui s'appelle « Mais où va l'argent ?», un autre « Money Lab » ou « Bancocratie ».
Mais toi, Aline, tu dis pas qu'il faut supprimer les banques. C'est quoi la nuance ?
Pour moi, les banques remplissent une fonction essentielle au fonctionnement de notre économie, en tout cas du monde dans lequel nous vivons, là, aujourd'hui, nous, Européens, Occidentaux. C'est celle de production monétaire, d'octroyer des crédits, donc de faciliter le financement d'un certain nombre d'activités, et puis d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Donc c'est grâce à cette infrastructure bancaire qu'on peut échanger de la monnaie facilement, faire des paiements, des transferts, en France, des chèques, des trucs comme ça.
Des trucs qui semblent aberrants au reste du monde, les chèques.
Les chèques, voilà, même en Belgique par exemple. Donc bon, il y a des fonctions essentielles donc que remplissent les banques. Le problème est que comme la grande majorité des banques, en tout cas la grande majorité des services bancaires, sont fournis par des immenses entreprises multinationales, des immenses conglomérats financiers qui répondent à la logique de maximisation du profit, à court terme en plus, cette fonction n'est pas du tout centrale dans leur activité. Au mieux, elle leur permet de s'assurer un sauvetage public en cas de problème. Et l'essentiel de leurs activités est tourné vers autre chose. Des activités de marché à 95% qui ne financent rien, qui ne sont juste que des actifs qui s'achètent, qui se rachètent, de l'argent qui tourne sur lui-même, mais qui est fortement lié à nos vies, à nos existences, parce qu'à chaque chaque fois, il y a une extraction de valeur du travail, des minerais qui sont extraits de la terre, des animaux, de la vie en général, quoi.
Aline dénonce, d'autant plus que ses activités spéculatives qui ne financent rien, elle y a participé. Avant de militer contre la financiarisation de notre monde, elle travaillait avec la direction de la banque privée Dexia. Alors comment passe-t-on de réunions en costume dans des sociétés actionnariales à des incantations dans une fontaine bruxelloise ? Remontons de quelques années. Aline est franco-marocaine, elle a grandi en Bretagne. Et je lui ai posé la question typique de celle qui n'a pas grandi en Bretagne.
J'ai habité pas loin de la mer pendant pas mal d'années, ouais. Notamment la dernière année où j'ai vécu chez mes parents, donc l'année du bac, en terminale, j'étais à 100 mètres de la plage, ouais.
Je lui demande si, quand elle regardait par la fenêtre, où elle voyait presque quasi la mer, si elle pensait déjà à l'époque à la finance. La réponse est non.
Moi, je rêvais de passer du temps avec mes potes, comme n'importe quelle fille de 17-18 ans. Et puis, je rêvais d'aller à Paris. Et mes parents m'ont dit, t'es bonne à l'école, fais une école de commerce, ça mène à tout. Une fois que j'étais en prépa, j'avais envie d'aller à HEC, de rester avec mes amis. Et puis, on est plein d'amis à être arrivés à HEC ensemble. Et je me suis quand même assez fort laissée porter par la facilité que j'avais à passer les étapes exactement comme il faut. J'ai compris seulement il y a quelques années que l'école, pour plein de gens, c'est juste une douleur monstrueuse, quoi. Moi, je suis passée à travers ça sans une exaltation de dingue, mais sans aucune difficulté. Et globalement, ce dont je me souviens de l'école, c'est mes amitiés, quoi. En sortant d'HEC, en fait, j'ai été, pour des raisons personnelles, au Luxembourg. J'ai été travailler au Luxembourg. Et au Luxembourg, il n'y a pas grand-chose à part des banques ou des entreprises proches du système financier. Donc, je suis rentrée un peu par hasard, comme ça, dans la première banque que j'ai trouvée, qui était Dexia, au Luxembourg. Et là, j'ai commencé aux ressources humaines.
Aline est restée pendant 10 ans chez Dexia, au cabinet de direction d'abord à Luxembourg, puis à Bruxelles. Elle est passée au travers des 2 faillites de cette banque, en 2008 et en 2011. Et quand on lui demande pourquoi elle a fini par partir, elle répond qu'il n'y a pas eu un moment déterminant, mais plutôt une série de fissures. Des expositions qu'elle a vues, des reportages, des émissions entendues, et aussi des lectures. Depuis la prépa, elle avait pris l'habitude de lire Le Monde diplomatique. Ses lectures, ses expos, ses émissions, c'était autant de petites fissures.
Et en fait, c'est en confrontant la position dans laquelle j'étais avec ses lectures, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte, progressivement, je me suis dit, mais merde, en fait, je suis dans une structure qui est au centre du système et qui fait le système qui extrait tellement de vie, en fait, d'un peu partout. Les flux d'argent, le travail d'investigation d'Eva Joly, c'est avec elle que j'ai compris les prix de transfert. Enfin, et une fois qu'on a mis un petit peu la main dedans, on tire le fil et puis il y a plein de choses qu'on découvre. Donc, quand j'étais au Luxembourg, j'ai commencé à comprendre l'importance immense des paradis fiscaux dans la dépossession de millions et de millions et de millions, voire de milliards de gens. Ça prend du temps, en fait, de s'auto-saisir pour vraiment faire le mouvement de quitter un environnement confortable, quitter un salaire relativement confortable, quitter une position sociale reconnue, quitter tout ça, et puis changer de trajectoire complètement à l'encontre de tout ce dans quoi on était engagé jusqu'à présent. Parce qu'en gros, je suis à une trajectoire qui était tout ce qu'il y avait de plus évident depuis la fin de mon bac, quoi. Et valorisé socialement, économiquement, etc. Le chômage, par exemple, ça me terrorisait, alors que j'avais tout à fait les moyens de faire face à un chômage pendant un an, par exemple.
Aline ne devait pas savoir à l'époque qu'elle allait finir par se résoudre à des méthodes radicales, organiser des rituels magiques pour nous désenvoûter de la finance. Et ça passe également par des jeux. Ce soir-là, elle avait organisé un jeu de tarot collectif pour quitter les paradis fiscaux.
On va commencer cette soirée.
Il y a des tables rondes,
vous installer à table après avoir
éclairées à la bougie. Sur chacune des tables, il y a 7 ou 8 places.
On va donc réaliser un tirage de cartes, donc une carte au
mensier. Et devant ces places sont alignés les jeux. Il y a aussi des bières au fût qui sont en libre service en échange de 2 euros. Ce qui est possible à Bruxelles puisque tout le monde ici a l'air d'avoir ce savoir inné du tirage de bière. À une des tables, il y a une DJ qui est maître de cérémonie. Et c'est
ensemble,
elle qui commence.
On va lire ces cartes et s'engager dans une conversation autour de ce que nous racontent les cartes.
L'idée, c'est que cette soirée, ce soit comme un rite de passage entre le rituel magique, la performance théâtrale et l'action politique, pour rassembler les énergies et créer un élan collectif. On apprend donc quels sont les paradis fiscaux, ce qu'est un port franc, et vous verrez à la fin, l'idée c'est d'écrire une carte postale pour se redonner l'idée qu'on peut avoir des prises sur ce qui se passe.
La première carte que nous allons tirer, c'est la carte du paradis, qui va nous indiquer dans quel paradis fiscal nous allons commencer notre aventure. Donc est-ce que l'une ou l'un de vous a envie de tirer cette première carte ? Dubaï ! Alors, je mentionne que si jamais vous souhaitez, on a des cartes Joker Paradis, où on peut en apprendre un petit peu plus sur ce que Dubaï fait et pourquoi est-ce que c'est un paradis fiscal.
Les Émirats Arabes Unis représentent moins de 1% du marché mondial des services financiers offshore, entre parenthèses, marché néanmoins colossal. Dubaï est notamment un paradis pour la fiscalité des personnes physiques.
9e au rang de la liste du TJN. Je ne sais pas ce que c'est le TJN.
C'est le Tax Justice Network, c'est un réseau international, un observatoire des injustices fiscales et des places offshore, des paradis fiscaux.
Plus t'es haut, plus ça va pas très bien, quoi, c'est ça ?
Ouais, le numéro 1, c'est vraiment trash. Ouais.
C'est qui ?
C'est pas la Suisse.
En effet, c'est bien la Suisse, le premier sur la liste du TJN.
On partage ce que Dubaï nous évoque.
Roger Federer habite Dubaï. Le célèbre sportif tennisman suisse. J'étais très déçue en apprenant ça. Il est tombé dans mon estime. Voilà.
On va continuer ce jeu de tarot. On va écrire une carte à Roger Federer.
La Suisse, c'est un bon paradis fiscal, donc c'est pas pour ça qu'il y va.
On va aussi parler de conférences gesticulées et de Christine Lagarde.
Quand j'entends Dubaï, ça va être...
Ce sera après ça. Get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark.
More to lose.
not right. I don't know what I'm gonna do with my life.
C'était Leila Makkala de Capitalist Blues, choisie par Djoubaka. Vous écoutez le 29e épisode de l'émission Full Continental. Et que vous soyez sur la RTBF ou sur France Inter, on aimerait que vous vous mettiez en mode voodoo. Parce que dans cet épisode, on se désenvoûte de la finance, ce qui n'est pas simple. Mais c'est ce qu'ont décidé d'entreprendre les membres du laboratoire Désorceler la finance. Ils veulent mettre en place des protocoles, des rituels, des expérimentations qui permettent d'aller parler de ces sujets, les banques, la finance, de façon sensible et accessible pour vous, pour moi. Parce qu'ils se disent que, dans notre contexte post-crise de 2008, ce n'est plus envisageable de laisser ces questions économiques et financières dans les seules mains des experts. Alors pour nous servir la finance sur un plateau, il y a des cérémonies de désenvoûtement, il y a en ce moment même un jeu de tarot, Quitter les paradis fiscaux, qui est en train de se jouer, où il est question de Roger Federer, et il y a aussi dans leur panoplie d'outils curieux, une conférence gesticulée, organisée par Aline Fares, qui est une ex-banquière de chez Dexia. Cette conférence, on peut la trouver en ligne, et elle commence par une plongée dans une réunion. Aline est en costume, face au public, derrière un tableau de données. Devant elle, il y a des rapports.
Bonsoir messieurs. Oui, Eric, oui. Oui, ben je vais te laisser introduire la réunion et puis je ferai les commentaires sur la synthèse des résultats, effectivement.
C'est une conférence gesticulée, une conférence donc qui mélange le spectacle et la conférence. Le gesticulant, l'orateur, discute d'un sujet en associant son expérience, des anecdotes autobiographiques et des apports universitaires et parfois des commentaires politiques. Et donc dans ce cas-ci, Aline commence sa conférence en nous plongeant en pleine réunion de crise de la direction de la banque privée Dexia.
À la holding, mais je sais que vous êtes
elle-même, pendant plus de 10 ans, faisait partie du cabinet d'un de ses directeurs. Et elle a voulu restituer ce que c'était, à l'époque, de faire le secrétariat de ses réunions, de la définition de l'agenda à l'envoi des invitations, à la rédaction du PV, en cette période particulière qu'était l'après-crise 2008.
Alors, côté coût, on devrait être aux objectifs. Michel ? Oui, ok. Mais donc, je vais noter ça. Donc, 3 départs probables en retraite anticipée qui ne sont pas comptabilisés. Je l'ajouterai au reporting, hein, ça nous rapprochera des objectifs, ce sera toujours ça.
Ça, c'est donc le tout début de la conférence gesticulée. Ensuite, Aline explique la crise de 2008, comment elle a pu se produire et quels étaient les acteurs et les enjeux. La conférence dure 1h30 et on apprend plein de choses. Et pour ceux qui voudraient une version résumée, j'ai demandé à Charlotte Geiger si cette explication, le pourquoi de la crise telle qu'elle la comprend 10 ans après, si elle pouvait nous la faire en moins de 5 minutes.
Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aspects différents, mais une des choses qu'on a vu là, c'est justement qu'il y avait des marchés, comme aux États-Unis, le marché du secteur immobilier, qui a surchauffé.
Charlotte, c'est qui ? Charlotte, elle travaille pour l'ONG Finance Watch.
Les fameuses bulles. Hein,
si vous avez écouté le dernier épisode dans lequel elle faisait une apparition, vous vous souviendrez qu'elle a fait des études de langue et que donc elle est assez bonne pour expliquer la finance aux nuls. Ces nuls dont elle faisait partie il y a très peu.
C'est beaucoup d'argent qui est investi dans un certain secteur où les prix augmentent. Et à un moment, ça risque d'exploser. Donc en effet, toutes les produits qui étaient liés à ça, ça s'appelle donc les produits dérivés. Donc sur les crédits qui ont été donnés aux personnes qui voulaient s'acheter une maison, sur ces crédits-là, on les a revendus. Et pour les revendre sur les marchés financiers, on les a transformés dans un produit dérivé. Et ce produit dérivé, donc c'est la titrisation, comme on appelle ça dans les termes techniques, a permis donc en effet de vendre ces crédits, de même mettre plusieurs crédits qu'on avait donnés à des personnes ensemble dans un package et le retrancher et de le revendre. Et la conséquence, c'était que plus personne ne savait quel risque il y avait vraiment dans ces papiers-là. Et donc l'interconnexion du système financier, ça veut dire qu'il y a une banque qui a des parts dans une autre banque, qui a des parts dans une autre banque, qui en effet ont des tailles énormes, donc qui sont présents dans des marchés internationaux, plus seulement nationaux. Ils ont vendu ces papiers entre eux et plus personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dedans. Et donc, une fois que la bulle a explosé, partout, il y avait des banques qui avaient des problèmes parce que ces papiers-là ont perdu de leur valeur et tellement de valeur que les banques, ils n'avaient pas assez de fonds de réserve, disons, simple, pour en effet éviter de s'effondrer, tout simplement.
Pas mal, pas mal. Ça me semble assez clair. Et du coup, c'est à qui la faute ? C'est aux banques ?
Je dirais même pas aux banques. Hein. Je dirais on peut dire, à un esprit de libéralisation et de dérégulation qui a régné depuis, je dirais, les années 70-80.
Pourquoi c'est pas la faute des banques alors ?
Je dirais, on a permis aux banques de faire cela.
Charlotte était donc dans le dernier épisode et je vous disais à l'époque que j'aimais particulièrement sa façon de parler de finances, comme si elle parlait d'amour ou d'un pain perdu, glace caramel, beurre salé. Elle parle de finances presque avec un ton gourmand. Et c'est tout l'intérêt. Elle comme Aline, qu'on entendait tout à l'heure, ont envie que les gens, comme vous, comme moi, nous nous intéressions à la finance. Tant qu'on se désintéresse, ils sont tranquilles, me dit Charlotte.
Il y a beaucoup de lobbyistes à Bruxelles pour le secteur financier. On parle de 1700 lobbyistes rien qu'à Bruxelles du secteur financier. Tandis que nous, chez Finance Watch, on est 12 personnes.
Et c'est pour lutter contre les lobbies bancaires que Finance Watch a été créé au lendemain de la crise de 2008 par des députés européens. Eux-mêmes avaient constaté une forte pression de ces lobbies et ils avaient besoin d'expertise neutre. Ils avaient besoin de savoir comment fonctionnent les marchés, les banques et comment les encadrer. L'ONG est donc en partie financée par les institutions européennes et animée par d'anciens banquiers, économistes ou universitaires.
Et par exemple, au début, on avait nos bureaux plus proches du Parlement européen, au Square de Meus. C'était un bureau qu'on partageait avec d'autres organisations. Et une des organisations qui était sur le même niveau que nous, c'était AFME. C'était donc les lobbyistes qui représentaient les intérêts des marchés financiers. C'était donc vraiment nos adversaires. Et on partageait même la machine à café et la copieuse, la photocopieuse. Et donc, il fallait juste toujours courir quand on avait un papier qu'on voulait pas qu'il le lise pour être premier à la photocopieuse. Parfois, ça devient un peu un jeu. On avait l'impression que chacun joue son rôle. C'est comme un match de foot et qui va gagner. Mais malheureusement, les sujets sont un peu trop sérieux pour en rigoler et pour voir ça comme un simple jeu. Et pour ne pas aussi se dire c'est quand même une très grande injustice, les moyens financiers qu'ils ont aussi pour faire du lobbying et qu'on n'arrivera jamais avec nos moyens d'avoir assez de force de frappe. Et donc, on peut parfois en rigoler, mais au fond du cœur, c'est quand même assez dur à avoir le peu de force qu'on a par rapport à eux d'influencer le processus du lobbying.
Quand je lui demande si elle croise parfois, si elle a des collègues ou même des amis qui sont lobbyistes pour ses banques et que je pourrais rencontrer, elle me dit qu'elle peut me donner des contacts, mais qu'ils refuseront de parler. Je me permets d'ailleurs de vous renvoyer ici à la mensuelle qu'on avait consacrée au lobby. Il y a quelques semaines, c'était avec Maxime Caligaro et il avait rencontré des lobbyistes. Et d'ailleurs, la question des médias est aussi importante. Ça a commencé comment ? Est-ce que les gens ne s'intéressent pas à la finance et donc les médias n'en parlent pas assez ? Ou est-ce que les médias n'en parlant pas, les gens s'en sont détournés ? En tout cas, ce problème, celui de l'implication des médias, Aline aussi en parlait dans sa conférence.
Chez Finance Watch, je me rappelle qu'on essaie régulièrement de passer la porte des médias généralistes. Et régulièrement, on nous disait, on va faire un petit article, hein, mais vous savez, la finance, les banques, ça passionne pas les foules. Si en plus c'est au niveau européen, alors là...
Aline a elle aussi, après Dexia, travaillé à Finance Watch. Elle avait rêvé de voir aboutir une loi de séparation des activités bancaires, notamment pour lutter contre les banques « too big to fail », trop grandes pour faire faillite. Et c'est quoi ça ?
Une banque qui est trop grande pour faire faillite, pour nous, ça ne doit pas exister. Parce que justement, avec ce statut... Donc c'est officiel, c'est un statut, il y a une liste de du Financial Stability Board. Il y a 30 banques dessus, 30 banques qui sont trop grandes pour faire faillite. Pourquoi ? Parce que s'ils feraient faillite, il y a une trop grande conséquence sur l'économie et sur le système financier mondial. Et donc on peut en effet pas les laisser faire faillite. Et donc nous, on pense, avec ce statut-là, on peut en effet avoir un chantage sur les politiciens, sur la société. Ils ont aussi la possibilité d'avoir de l'argent plus facilement que des petites banques. En effet, ils peuvent se refinancer sur les marchés financiers à un taux plus bas parce que tout le monde sait, mais eux, ils vont jamais faire faillite. Donc, je peux leur donner beaucoup d'argent, je vais jamais le perdre. Et ça, on trouve, ça devrait pas exister.
Et comment on fait pour réduire une banque alors ?
La taille d'une banque ? On peut réduire la taille d'une banque, par exemple, en imposant des règles qui séparent certaines activités. Par exemple, ça s'appelle une réforme structurelle des banques. où on sépare les activités qui sont plus traditionnelles, donc les épargnes, les crédits aux entreprises, quand on cherche l'argent aux distributeurs. Ça, c'est la banque traditionnalisant. Il y a l'autre banque qui fait beaucoup plus de des activités sur les marchés, beaucoup plus spéculatifs. Et nous, on dit, si on sépare ces deux activités, un peu comme deux départements au sein d'une banque, on pourrait, par exemple, éviter que si un département a pris trop de risques et doit faire faillite, on peut la laisser faire faillite, tandis que l'autre partie, elle survit. Nous, les citoyens, on peut encore continuer à payer notre loyer, on peut payer notre facture d'électricité. Ça, c'est très important que ça continue à exister.
Et ça ne devait pas être mis en place il y a quelques années déjà, cette séparation ?
C'est ça, cette séparation bancaire, elle a été préemptée un peu au niveau national. Donc en France et en Allemagne, on avait fait des lois de séparation bancaire avant une loi européenne. Et en effet, ce qu'on a vu, malheureusement, que les lois françaises et allemandes ont été très vides. Donc, c'était des lois cosmétiques. En effet, ils n'ont presque rien changé. Ce qui s'est passé au niveau européen, c'est encore pire. Il n'y a même pas de loi.
Dans un article paru dans le journal Les Échos en octobre 2017, je lis ceci. La Commission européenne a officiellement renoncé mardi à son projet de séparation bancaire qui était censé renforcer la robustesse du système bancaire. Ce projet, qui prévoyait que les grandes banques séparent leurs activités de trading de leurs banques de détail, a été retiré du programme de travail. Pour justifier cet abandon, la Commission explique qu'il n'y a pas d'accord en vue. La proposition était particulièrement combattue par les banques françaises. Dans un article du Figaro daté de septembre 2018, il y a ce texte joyeux écrit par David Seyla. Il est économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers. La crise économique, écrit-il, qui avait fait suite à l'effondrement de l'immobilier américain en 2007 et à la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008, devait être l'occasion de tout remettre à plat. Il était urgent de moraliser le capitalisme, entendait-on. Il fallait que les banques assument leurs risques et ne comptent plus trop sur la garantie des États, contraints de les sauver pour protéger l'épargne des ménages et les systèmes de paiement. Et puis, rien, ou si peu. Aux États-Unis, sous Obama, un timide effort fut fait pour mieux encadrer la finance. En Europe, on organisa la supervision systématique des banques par la BCE. Mais les grandes réformes, celles qui auraient permis de transformer en profondeur la logique et les pratiques, ont été à peine engagées, avant d'être enterrées. Enterrer la taxe sur les transactions financières qui aurait permis de faire disparaître la pure spéculation de court terme, enterrer la séparation stricte entre les activités bancaires qui financent l'économie réelle et la finance de marché, enterrer l'interdiction effective des placements financiers dans les paradis fiscaux, enterrer enfin la régulation stricte des produits dérivés qui permettent aujourd'hui à n'importe quel trader de parier sans limite sur l'évolution des cours de titres qu'il ne détient pas. La finance est aujourd'hui dans le même état qu'il y a 12 ans, et les marchés financiers tout aussi exubérants. Les indices boursiers, l'immobilier, ont dépassé les sommets qu'ils avaient atteints avant la crise. Notre système économique est toujours assis sur une montagne de dettes, en partie insolvable. Et même Christine Lagarde, en février 2019, a plaidé pour une mise à niveau de l'éthique du secteur financier. Trop souvent, ce secteur financier a travaillé pour se servir et ensuite seulement servir les gens.
Comment est-ce qu'on agit en tant que citoyen ? C'est désespérant.
Oui, alors...
Cette émission ne veut pas désespérer celui qui nous écoute. Toi-même qui nous écoute, ne lâche pas prise.
Je ne suis pas désespérée. À part soit devenir des experts, soit manifester une colère forte, virulente, notamment en cassant, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens d'action qui sont à notre disposition, en tout cas qui s'expriment. Et par exemple, tu me posais la question tout à l'heure, tu veux plus de banque ou quoi ? Est-ce qu'il faut détester le monde bancaire ? Est-ce qu'il faut s'en séparer ? Je pense que c'est là qu'est la question, c'est réussir à penser la banque non pas comme quelque chose qu'on doit détruire, mais comme quelque chose qu'on doit profondément transformer et sur lequel on doit reprendre un contrôle, mais un contrôle qu'on ne délègue pas, un contrôle que l'on prend vraiment. Il faut que nous, population, nous, collectifs, nous, habitants d'une région, que nous définissions une mission pour là où les banques du coin. Et c'est pas du tout une utopie, c'est vraiment, c'est une nécessité en fait. ensuite mettre en place des organes de contrôle, de surveillance, qui permettent de s'assurer de la bonne application de la mission. Et puis je pense que la mise sous contrôle citoyen va impliquer nécessairement une atomisation du secteur bancaire. On est face à des géants qu'il faut démanteler. C'est absolument nécessaire.
Et une fois qu'on a compris ça, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que vous espérez de la part des citoyens?
Par exemple, s'il y a des élections européennes qui viennent prochainement, qui se demandent « mais quel parti politique me dit qu'il va s'engager pour mieux encadrer la finance ? Est-ce qu'ils réfléchissent au problème qu'il y a des banques trop grosses pour faire faillite ? Pour lutter contre le climat, est-ce qu'il faut peut-être aussi engager la finance dans ce grand combat ? Et comment ? Toutes ces questions, le citoyen, il peut les poser aux politiciens. Il peut aussi leur envoyer un email, aller à un événement et demander « mais qu'est-ce que vous allez faire pour encadrer la finance, pour la mettre au service du citoyen ?» Donc, je trouve ça, c'est une étape suivante.
Et vous qui vous dites « mince, mais c'est trop tard pour voter puisqu'il fallait s'inscrire avant le 31 décembre », figurez-vous que non, cette année, en France, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales.
Et après, bien sûr, on peut encore aller plus loin. Par exemple, réfléchir soi-même à quelle banque est-ce qu'on va pour mettre ses épargnes, à quelle banque... avoir un crédit pour acheter une maison. Est-ce que c'est seulement important d'avoir un taux très très bas ou est-ce que c'est peut-être intéressant de savoir que cette banque, elle est plus éthique ?
Et pour ne pas vous quitter comme ça, revenons à notre tarot qu'on a lancé tout à l'heure et dont la finalité, après tout, est de chasser les entités malfaisantes des paradis fiscaux pour imaginer de nouveaux paradis.
Je crois pas que je l'ai évoqué, mais l'idée, c'est que nous écrivions chacun et chacune une carte postale à quelqu'un. Et ce quelqu'un nous sera défini par la carte destination. On va chacune en tirer une.
On cherche d'ailleurs toujours, pour lui envoyer sa carte, l'adresse de Roger Federer.
Ça, c'est à qui s'adressera notre carte postale.
Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de Full Continental.
Après, tu peux la poster juste dans la boîte aux lettres de ton agence bancaire ou même de la banque à côté de chez toi.
Et je pense que même si vous n'étiez pas à cette soirée, même si vous ne connaissez pas Dubaï, même si vous n'avez pas de banque et gardez tous vos sous sous votre matelas, vous avez le droit d'écrire des cartes postales vous aussi, pour vous plaindre ou pour vous réapproprier ces territoires qui font peur, mais auxquels peut-être vous voyez maintenant un petit peu plus clair.
T'as même pas besoin de mettre de timbre.
Parce que oui, on aime bien cette idée qu'on pourrait, avec des cartes postales ou avec nos votes, imaginer de nouveaux paradis. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Aline et Charlotte, mais aussi à Mike.
Donc c'est une carte qui est adressée à Jim Mullen, qui est le PDG de la grosse entreprise de Paris.
Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage. Elle est assistée cette semaine de Constance Cabouret. Merci aussi à Claire Bro pour ses illustrations qui seront sur la page de l'émission Full Continental sur franceinter.fr et sur le site de la RTBF.
Tu as épuisé le micro, essaye de rien. Rejoins-nous.
Et puis sachez que lundi, Full Continental sera en kiosque dans la double page de Libération qui est consacrée aux élections européennes, comme tous les lundis jusqu'aux élections en mai. Passez un dimanche délicieux et à la semaine prochaine.